Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Eh bien, bonjour chers amis, je vous retrouve comme chaque semaine. Je vous rappelle d'ailleurs que les émissions sont enregistrées, vous pouvez les trouver sur le site de Radio Présence, onglet foi, récit de vie de saint, ou bien vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, récit de vie de saint, Radio Présence, et vous accéderez aux différents enregistrements. Et s'il y en a un particulièrement que vous voulez, vous tapez la date du jour où l'émission a eu lieu, en sachant que l'émission a lieu tous les mardis. Je crois que c'est à partir de 13h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc nous en sommes à Catherine de Francheville. Et je vous avais promis la semaine dernière de vous parler un petit peu de sa maison, puisqu'elle a quitté donc la maison familiale, une maison très riche, puisque c'était une famille très riche, et pour s'isoler un petit peu, elle est allée prendre un appartement en ville. Alors quand je dis un appartement, il faut bien se comprendre, nous sommes au XVIe siècle, un appartement, ce n'est pas un appartement comme aujourd'hui, il n'y a pas l'eau courante et la douche et les toilettes à tous les étages, voilà. Mais enfin, c'est un appartement quand même, voilà, c'est un appartement quand même. Et donc, voilà, elle a voulu s'éloigner un petit peu, de ce cadre très riche dans lequel elle était accoutumée à vivre. Et donc, les gens ont envie de faire sa connaissance parce qu'elle a cette réputation de piété, hein. Puis c'est quand même extraordinaire, quelqu'un comme ça qui se fait couper les cheveux alors qu'elle a une chevelure magnifique et qu'elle est belle comme tout, qui se prend des vêtements de paysanne, qui se met une coiffe de paysanne, qui vend ses bijoux, pour faire l'aumône aux pauvres, et puis qui quitte sa riche maison pour aller prendre un appartement en ville. Alors forcément, ça attire l'attention, ça se remarque. Elle va à la messe tous les jours. Dès qu'elle voit un pauvre, elle lui fait l'aumône, elle lui donne des vêtements. Enfin, ceci, cela, elle a monté sa cantine dans laquelle elle sert elle-même. Enfin bon, donc ça attire l'attention. Et les gens de qualité, les gens de sa classe sociale, ils ont envie, certains, de satisfaire leur curiosité, de savoir comment est-ce qu'elle vit, quoi, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle aurait à raconter, qu'est-ce qu'elle aurait à dire. C'est quand même un sujet de conversation. Alors si on va la voir et si on peut regarder, si on peut la prendre un petit peu là, ça fait de la conversation après dans les salons, voyez-vous. Il y a des gens très vertueux, qui ont aussi envie de la voir. Ils ont envie de la voir pour s'édifier, en s'entretenant avec elle, en suivant son exemple, en écoutant peut-être une leçon de sagesse qu'elle pourrait leur dire. Un mot de charité, quelque chose qui pourrait les édifier. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'améliorer, d'évoluer. Alors du coup, les gens qui viennent la voir, et puis même ses frères, ils viennent la voir. Elle les aime beaucoup, ses frères, mais bon, elle les reçoit que 3 ou 4 fois par an, et elle a vraiment envie de s'isoler, quoi. Sa chambre, c'est un petit peu comme une grotte inaccessible, voilà. Et alors, comment s'appelle ce livre ? Catherine de Francheville, La retraite de Vannes, Les filles de la Sainte Vierge. Donc c'est un livre qui est disponible à la Bibliothèque nationale de France, mais que vous pouvez lire tranquillement chez vous sur Gallica, G-A-2-L-I-C-A, Gallica. Et donc je vais vous lire quelques passages d'un livre qui a été écrit il y a de cela de très nombreuses années. Voilà, bon. C'était là que, loin du tumulte, elle partageait son temps entre la prière et la mortification. Voici quelle en était la distribution. Elle se levait à 5h du matin, ensuite elle se préparait à l'oraison pour une sanglante discipline. Alors là, une sanglante discipline, qu'est-ce que c'est ? Une sanglante discipline, c'est-à-dire qu'en fait, elle se flagellait. Alors c'est pas par masochisme, Hein, c'est pas pour se faire du mal, c'est pas pour le plaisir de se faire du mal. C'est que en le faisant pour le Christ, elle augmente sa foi, elle nourrit sa foi. En même temps, elle a conscience des mouvements de sa pensée ou de certains souvenirs, peut-être je sais pas, de péché, peut-être de choses comme ça. Et puis il y a l'idée parce qu'elle a porté aussi la cilice et la haire, c'est-à-dire sont des vêtements avec des pointes tournées vers l'intérieur du vêtement, donc contre la peau. On diminue la sensibilité du corps pour accroître celle de l'esprit. Hein, voilà, donc elle se levait à 5 heures du matin. Ensuite, elle se préparait à l'oraison, on dit, par une sanglante discipline. Sanglante, hein, voilà. D'ailleurs, il y a même son confesseur qui lui dira qu'il faut ralentir un peu ça parce que, un peu ça va, on peut comprendre, mais au-delà d'une certaine dose, c'est excessif. Hein. Donc son confesseur, voilà, il la calmera un petit peu de ce côté-là. Ensuite, à 8 heures, elle allait à l'église où elle se confessait, elle communiait, elle entendait toutes les messes et elle s'en retournait chez elle pour dîner à 1 heure de l'après-midi. Voilà. Et alors, à 3 heures, elle s'enfermait dans son cabinet pour y faire sa lecture spirituelle. Hein, je vous en ai parlé dans une chronique précédente. Hein, il y avait la Bible, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint François de Sales, voilà, notamment, hein, et certainement d'autres aussi, mais enfin, voilà, on a retenu déjà cela. Bon. Et puis à 5 heures, elle ressortait pour aller devant le Saint-Sacrement où elle priait jusqu'à 6h30, et puis à 8h le soir, elle assemblait ses domestiques pour aller faire prier en commun, et puis après la prière, chacun se retirait dans sa chambre, et là, elle restait en méditation ou en lecture jusqu'à 11h, heure à laquelle elle se couchait, voilà. Et alors, elle se donnait comme ça la discipline jusqu'à 2 fois par jour, avec tant de rigueur, on dit dans le livre, que comme les branches en étaient armées de rosettes de fer, le sang en coulait avec abondance. Et malgré les profondes plaies qu'elle se fit, elle continua ce rigoureux exercice jusqu'à ce que son confesseur, informé de cet excès de pénitence, lui commanda de le modérer. Elle portait souvent la haire ou le cilice. Bien des fois, elle se roulait toute nue sur des orties. Ah, c'est quand même énorme, quoi. Hein, c'est quand même énorme. Je pense à Saint Antoine le Grand, le premier ermite dans le désert, qui lui aussi s'était roulé dans des orties parce qu'il avait des rêveries érotiques. Donc, pour faire passer ça, il se roulait dans les orties. Oui, on rigole pas là, hein, on rigole pas là. Et alors, elle jeûnait jusqu'à 4 fois par semaine, hein, au pain et à l'eau. Et alors pour mortifier son goût pour les choses qu'elle aimait le plus, elle s'abstenait de manger des fruits, bien souvent. Et pourtant, elle en faisait servir à table pour renouveler constamment ce sacrifice qu'elle se faisait. Et elle s'était abstenue une fois de boire pendant tellement longtemps, hein, qu'elle s'en est causé une inflammation dans la bouche. Bon, c'était une pratique. Bon, ça ne se fait plus aujourd'hui, et certainement c'est heureux. Dieu ne nous demande pas cela. Il demande la miséricorde, pas le... Mais voilà, ça se faisait à l'époque. Puis la miséricorde, elle en a eu. Elle a fait la charité matérielle et spirituelle, mais pour la spirituelle, nous y reviendrons plus tard dans les prochaines chroniques. Hein, là, nous avons vu déjà commencer à voir qu'elle faisait la charité matérielle, hein, en donnant des aumônes, en envoyant des vêtements, en donnant des pensions aux parents qui ne pouvaient pas assez d'argent pour s'occuper pour entretenir de leurs enfants, en ayant créé une cantine dans laquelle elle servait elle-même. Donc voilà. Bon. Et voilà. Et alors voilà. Elle avait aussi un penchant naturel pour la propreté. Bon, ben ça c'est très bien. Tant mieux. On est content pour elle. Et alors pour combattre cette inclination, à la propreté, ça peut nous paraître extraordinaire à nous, parce que pour elle c'était trop de la sensualité tout ça. Elle invitait un mendiant sale, mal propre, qui touchait continuellement. Qui, par la puanteur de ses crachats, faisait mal au cœur de ceux qui le voyaient. Et cet objet, loin de la choquer, semblait lui faire plaisir. Elle le faisait manger dans son plat où elle mangeait elle-même. Je ne sais pas si vous imaginez un peu La mortification était assaisonnée de l'onction de la prière. Dans quelque église que le Saint-Sacrement fut exposé, elle y passait tout le jour en oraison, les genoux nus contre terre. Ah, vous voyez, c'est... Tous les samedis, elle visitait à pied l'église Notre-Dame de Bethléem, distante d'une lieue de Vannes, et rarement elle passait un mois sans faire aussi à pied le pèlerinage de Sainte-Anne Dorée à 3 lieues de la même ville. Elle y allait en silence et donnant l'aumône à tous les pauvres qu'elle rencontrait en chemin. En revenant, elle permettait y compris une courte récréation qui était suivie de quelques prières. Elle ne voyageait jamais sans la compagnie de quelques prêtres vertueux, dans la pensée que son voyage en serait plus heureux et plus sain. Voilà. Et alors quand elle s'arrêtait dans une chapelle à chaque fois, elle laissait des aumônes ou des calices qui pouvaient valoir jusqu'à 50 écus, voilà. Elle avait monté dans sa maison un magasin où tous les pauvres pouvaient trouver du pain, du vin, des œufs, du bouillon, de la viande, des médicaments, des confitures, des habits, du bois, enfin toutes les provisions nécessaires. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, donc elle a commencé par la charité matérielle, hein, du point de vue d'autrui, et ouais, quand même une bonne dose de mortification. Bon, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. À très vite, mes amis, à très vite.